Nous sommes le mardi 21 juillet. Bienvenue pour ce nouveau journal en français sur KBS World Radio. Vous êtes en compagnie d'Ohayan et de Baptiste Morical.
À la une aujourd'hui, Lee Jae-myung souhaite une réforme juste et raisonnable de la fiscalité immobilière et renforcer les mesures contre les catastrophes estivales. Nous évoquerons également la déclaration de Busan, adoptée par le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO hier. Et nous terminerons avec l'école sans smartphone qui sera expérimentée dès la rentrée de septembre dans 200 établissements.
Débutons ce journal avec Lee Jae-myung qui veut une réforme juste et raisonnable de la fiscalité immobilière.
Lors du Conseil des ministres tenu aujourd'hui à la Maison Bleue, le chef de l'État a estimé que le marché immobilier était l'une des principales causes de l'aggravation des inégalités patrimoniales, de l'endettement des ménages ainsi que des difficultés rencontrées par les jeunes. Il a souligné que sa stabilisation constituait l'une des conditions essentielles à la réduction des inégalités. Le président a également dénoncé les revenus tirés de la spéculation immobilière obtenue par des moyens illégaux ou détournés, estimant qu'il porte atteinte à l'équité, au sens de la justice et la cohésion nationale. Lee Jae-myung a donc indiqué que le gouvernement mettrait en œuvre des mesures destinées à accélérer l'offre de logements et à soutenir les acquéreurs occupants. Il a ajouté que le système fiscal serait réformé pour le rendre plus juste et plus raisonnable sur la base du bon sens des citoyens. Enfin, à l'approche du grand débat sur l'immobilier prévu le 23 juillet, Lee Jae-myung a assuré que l'exécutif serait à l'écoute des citoyens afin d'élaborer des solutions concrètes et réalisables.
Autre sujet abordé aujourd'hui, le renforcement des mesures contre les catastrophes estivales.
Oui, Lee Jae-myung a appelé à mobiliser tous les moyens disponibles pour prévenir les catastrophes estivales alors que de fortes pluies sont de nouveau attendues cette semaine. Il a demandé d'accélérer les travaux de reconstruction dans les régions touchées par les inondations, notamment à Andong et Huisong dans le Gyeongsang du Nord, à Sochon dans le Chungcheong du Sud, ainsi qu'à Goyang dans le Gyeonggi. Il a souligné que le taux d'achèvement des travaux de réhabilitation avant la mousson était le plus élevé enregistré depuis 10 ans. Le chef de l'État a également invité les autorités à préparer des mesures contre les vagues de chaleur attendues après la mousson, notamment en élargissant les horaires d'ouverture des centres de rafraîchissement.
Venons-en à l'incendie d'un entrepôt de Kupang. Un soulagement, les pompiers sont parvenus à le fixer.
La bonne nouvelle est tombée hier soir. Vers 20h, les autorités de lutte contre les feux ont annoncé que les flammes les plus importantes ont été éteintes. Pour rappel, l'incendie s'était déclaré samedi vers 7h dans le centre logistique de Kupang à Incheon. Toutefois, l'intervention des pompiers est loin d'être terminée. L'opération de noyage peut encore prendre plusieurs jours. Par exemple, en juin 2021, 6 jours avaient été nécessaires pour éteindre les dernières braises lors d'un incendie d'un autre entrepôt du géant du e-commerce à Incheon, qui présentait une surface plus de 2 fois moins importante.
La mairie de l'arrondissement de Seohae, où se trouve le centre d'Incheon, considère que le risque d'effondrement de certains de ses bâtiments a diminué.
Et par conséquent, elle a levé son ordre d'évacuation pour les riverains dans un rayon de 116 mètres autour de la zone de la rampe de l'entrepôt. Quelques 200 résidents évacués dans un abri temporaire sont rentrés chez eux. Une fois l'incendie complètement éteint, les autorités mettront en place une équipe d'enquête conjointe avec les autres organismes concernés afin de déterminer la cause exacte du sinistre ainsi que l'ampleur des dégâts. La police fera de même pour mener une expertise avec le Service national des sciences forensiques. De son côté, le président Lee Jae-myung a insisté sur la nécessité de tout mettre en œuvre afin de limiter au maximum les dommages pour les équipes d'intervention et les habitants des environs.
Quant à l'affaire de pénurie de bulletins de vote lors des élections du 3 juin, la majorité et l'opposition ont trouvé un accord pour désigner un procureur spécial.
Le chef du groupe parlementaire du Minju, Han Myung-do, et son homologue du Parti du pouvoir du peuple, Jong Jong-shik, ont annoncé cet accord mardi à l'Assemblée nationale. Le procureur spécial sera chargé d'enquêter sur les pénuries de bulletins de vote, mais aussi sur les défaillances de fonctionnement de la Commission électorale nationale. En vue de sa nomination, les deux partis sont convenus de créer un comité de recommandation citoyenne composé de 6 membres désignés à parité. Celui-ci devra retenir 2 candidats parmi 6 personnalités proposées à raison de 3 chacune par l'Association coréenne des avocats et l'Association coréenne des écoles de droit, puis les recommander au président de la République qui désignera l'un d'eux comme procureur spécial. La durée et le périmètre des investigations feront l'objet de discussions ultérieures. Les deux formations se sont également engagées à faire adopter une loi encadrant cette enquête spéciale avant la fin de la session extraordinaire de juillet.
Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
En Corée du Nord, les travaux de fortification de la frontière le long de la ligne de démarcation militaire MDL se poursuivent.
C'est ce que révèle l'analyse de récentes images satellitaires dans la zone démilitarisée, la DMZ, côté nord-coréen à Cheongwon, dans la province de Gangwon. Une nouvelle route longeant la MDL a été aménagée sur une distance d'environ 20 km en ligne droite après le dégagement de la végétation. Elle n'apparaissait pas sur les images satellitaires de juillet 2025. Au total, les routes nouvellement construites par Pyongyang à proximité de la MDL représente plus de 100 km en ligne droite. L'aménagement de routes tactiques destinées aux opérations militaires semble également s'accélérer. D'une largeur d'environ 10 mètres, ces voies devraient permettre à l'armée nord-coréenne de déplacer rapidement des troupes et du matériel militaire selon les experts. Pyongyang aurait achevé quelques 70 km de routes tactiques ainsi que l'installation d'environ 90 km de barbelés le long de la MDL. Des observateurs estiment que le processus de fortification de la frontière pourrait être achevé d'ici 2 à 3 ans, soit plus tôt que prévu initialement.
Et nous enchaînons avec un tout autre sujet. Comme nous vous l'annoncions hier, le comité du patrimoine mondial a adopté la déclaration de Busan lors de sa 48e session.
Et en adoptant ce texte, les participants ont appelé à une coopération internationale accrue pour protéger le patrimoine culturel et naturel dans le monde entier. Son enjeu principal est d'ajouter la collaboration aux 5 objectifs stratégiques, les 5 C déjà fixés, à savoir la crédibilité, la conservation, le renforcement des capacités, la communication et la communauté, formant désormais les objectifs 6 C. La déclaration adoptée sous l'égide de la Corée du Sud, le pays hôte de la conférence, évoque également la nécessité de renforcer la responsabilité de l'utilisation des technologies numériques dont l'IA, d'interpréter de manière responsable et inclusive la valeur de chaque patrimoine, ainsi que de partager la responsabilité dans sa gestion.
Afin de concrétiser cette déclaration, le gouvernement sud-coréen envisage de lancer 12 projets de suivi.
Oui, parmi eux figurent l'organisation d'un forum de Busan, le soutien à la gestion des sites historiques en Asie du Sud, le développement des technologies numériques de patrimoine culturel appliquant l'IA générative, ou encore le renforcement des capacités d'inscription au patrimoine mondial en Afrique.
Aujourd'hui marque également l'entrée en vigueur de l'amendement à la loi cadre sur l'intelligence artificielle.
Il concrétise le dispositif juridique et institutionnel encadrant l'IA. Les nouvelles dispositions devraient permettre de mieux réglementer son utilisation tout en favorisant le développement du secteur. Le texte impose tout d'abord au gouvernement et aux organismes publics de privilégier les produits et services reposant sur l'IA dans le cadre des marchés publics. Il instaure également un système de certification des produits et services d'IA permettant au ministère des Sciences et d'Éthique de vérifier sur le plan technique le recours à cette technologie par les fournisseurs. L'obtention de cette certification ouvrira la voie à un traitement préférentiel lors de l'attribution des marchés publics. En outre, la nouvelle loi établit une base légale pour l'octroi d'un soutien financier de l'État et des collectivités territoriales aux personnes vulnérables face à l'IA, telles que les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, mais aussi à celles qui rencontrent des difficultés d'accès à cette technologie, notamment pour des raisons économiques. Enfin, l'amendement précise les modifications apportées à la Commission nationale de la stratégie pour l'IA, ainsi que le cadre juridique relatif à la création et au fonctionnement des instituts de recherche en IA.
Et pour refermer cette édition, l'expérimentation de l'école sans smartphone sera lancée dès la rentrée de septembre.
Le ministère de l'Éducation a décidé de tester ce dispositif de zéro smartphone à l'école dès la rentrée de septembre dans 200 établissements de tout le pays. L'année prochaine, leur nombre sera porté à 400. Actuellement, la loi en vigueur interdit l'utilisation des téléphones portables par les élèves pendant les cours. Son efficacité est toutefois jugée limitée puisque l'usage en dehors des heures de classe est basé sur le volontariat des professeurs de chaque établissement. La nouvelle initiative expérimentale obligera les élèves à ne plus utiliser leur précieux appareil dans l'enceinte de leur école de leur arrivée jusqu'à leur départ. Un responsable du ministère a expliqué avoir décidé de faire la chasse aux smartphones à l'école afin de faire face aux effets néfastes de l'addiction, causant même l'exposition des élèves à la cyberviolence scolaire. 43% des adolescents présentent un risque de surdépendance, le taux le plus élevé de toutes les tranches d'âge.
Merci de votre attention. Plus d'informations sur notre site internet. Tout de suite, c'est au jour le jour avec Anne Flau. Excellente soirée à tous.